Salut les amis.
Salut Charline.
Alors, on reçoit qui?
Lynn Renaud. On reçoit Lynn Renaud.
Ah, j'ai jamais vu aussi content.
La dernière fois, c'était pour Isabelle Aubray.
Ah ben, oui. Encore une chanteuse. Quoi.
Encore une ch'ti,
encore une légende. Oh, j'espère que je vais aimer son nouveau disque.
Ah, ah. Ben, je vois que t'as bien préparé, dis donc.
C'est Benjamin Biolay qui a écrit les chansons.
Non,
c'est ça.
Non.
Il y a un duo avec Brigitte Fontaine.
Non, non plus.
Et pourquoi?
Mais parce qu'elle vient pour un livre.
Ah oui.
Ah bah voilà. Ah bah voilà. Il est content d'avoir Lynn Renaud et il sait même pas pourquoi elle vient.
Je vais lire.
Si elle venait pour vendre 50 goûts diesel, c'était bon aussi.
Oui, j'aurais été content.
Oui, ça va, silence. Voilà. Il parle de quoi?
Oui.
En fait, elle s'est fait berner par une fan.
Ah, d'accord.
Je connais bien ça.
Elle a fait trop confiance à la fille.
Bah, voilà. Moi, tout pareil, moi.
Tu nous as jamais raconté.
Comme Lynn, moi, j'avais donné toute ma confiance et paf, déception.
Mais c'était dans quel contexte?
Après un spectacle, on boit un verre. Elle me dit que je suis formidable.
La filoute, dis donc, elle savait comment s'y prendre.
Mais je te fais pas dire.
Et puis, elle t'a donné de l'argent.
Mais pire.
Elle t'a menacé.
Mais pire.
Mais quoi?
Elle a pas voulu coucher avec moi.
Ah, la vache, ça c'est dur, ça.
Non, c'est pas dur, justement. J'étais par terre.
N'en fais peut-être pas un livre. Bon, allez, les sujets.
On parle du foot, non?
Ah oui, c'est rigolo. Céline Renaud, elle parle de foot.
Ah oui, en tout cas, c'est incroyable. Le PSG, c'était tellement certain de gagner. Et bam, la douche froide.
Ouais, mais je connais ça.
Ah non, t'as joué au foot, toi?
Mais non, mais un soir, après un spectacle, j'ai une fille, elle me dit, je suis formidable. Jusqu'à la 88e minute, je me dis, c'est impossible de perdre ce match. Et là...
Elle refuse de coucher avec toi.
Bah c'est ça.
Et comment tu sais?
Non, rien, je sais pas. J'ai l'impression que c'est souvent la fin de ton histoire, quoi. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui est devenue moins caricaturale que la réalité. Et voici les trois informations qui vont porter la blague au pouvoir. La citation d'un grand auteur, c'est le pilier d'un discours politique et ça vous pose un homme à peu de frais, telle une petite couche de ripolin, mais encore faut-il savoir manier le pinceau.
Plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire, parce que c'est une leçon de vie.
Le monde se divise entre les enfants qui travaillent à l'usine et les enfants qui travaillent au cinéma ou au théâtre. Avec une législation stricte, on forme de la graine de syndicalistes.
Attendez, mais vous n'êtes que des marxistes.
La politique n'a pas le monopole du scénario improbable. Le foot aussi, avec le résultat délirant du match Barça-PSG qui entre dans l'histoire et ruine tous les parieurs.
Oh non, c'est pas possible. Je n'ai pas compris. Dis-moi, ce n'est pas vrai!
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est encore sous le choc de ce score, c'est Alex Vizorek.
Mais oui, je peux vous dire, j'étais dans un bar hier soir, j'ai découvert ce que c'était le silence. Et autour de cette table, une belle équipe pour notre invité, 17h20, celui qui, dans cette maison, on le laisse choisir la musique qu'on diffuse à l'antenne, moi qui ne laisserai même pas choisir la couleur des rideaux dans mon grenier, c'est vous, monsieur Djoubakar.
Bonjour à tous.
Bonjour, de quoi on parle?
Aujourd'hui, de bestiaux, d'animaux.
Ouais. 17h30, l'homme qui est allé au théâtre hier, car Emmanuel Macron y jouait. Et on imagine que Manu a joué du Shakespeare, une pièce qui lui colle à la peau, beaucoup de bruit pour rien.
Oui, je vais vous dire ça, Alex. Bonjour, bonjour Charline, bonjour à tous. Mais surtout, Nicolas Sarkozy est de retour. Il était chez Bourdin pour parler des chômeurs et des refus d'offres d'emploi.
Si vous refusez la deuxième, vous sortez du système.
Ah oui, alors
vous n'êtes plus indemnisé.
Voilà, c'est Emmanuel Macron, mais voilà, c'est le même discours. J'étais à son meeting hier soir, effectivement.
Très bien, et 17h40, si à elle un titre de Shakespeare... J'ai envie de lui attribuer comme il vous plaira. Mais malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'avec moi, rien ne lui plaît. C'est Clara Dupont-Mono.
Moi, je pense à la mégère apprivoisée.
Bonsoir Alex, bonsoir Guillaume Meurice.
De quoi on va parler?
Du bouquin de notre invité.
Du livre,
ah, vous du livre.
Du livre, je m'en canaille.
Vous vous en canaillez, en effet.
Quelle jolie voix.
Et la vôtre aussi, je me tourne vers celle qui a tout annulé pour nous. Vous avez été meneuse de revue à Paris et à Las Vegas. Vous avez chanté Ma cabane au Canada, Ma petite folie, Le chien dans la vitrine. Vous avez joué au cinéma dans La maison du bonheur ou Bienvenue chez les ch'tis. Vous avez joué au théâtre Folamanda, Harold et Maude ou Très chère Mathilde. Vous êtes cofondatrice et vice-présidente du SIDAction. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Madame Jacqueline Gasté, dite Lynn Renaud.
C'est complet.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Lynn Renaud.
Bienvenue chez vous Charline.
Et vive le Nord.
Mais oui.
Lynn Renaud, vous publiez un livre qui s'appelle Une drôle d'histoire avec Bernard Stora. C'est paru chez Robert Laffont. Alex Vizorek, qui est fan de vous, hein, vous l'avez compris. Hein. C'est Alex Vizorek est votre fan numéro 1.
Oui, on s'est rencontrés, ça fait tilt.
Mais
franchement.
Ne racontez pas tout parce que sinon les rumeurs les plus folles vont courir. Mais non, ce qui est formidable dans l'aventure de ce livre, c'est que vous n'êtes pas écrivain, Lynn Renaud, et il vous arrive quelque chose dans la vie plus fort que le romanesque, et on vous dit, mais ça, ça vaut un livre.
Oui, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais ça, ça vaut un livre, ne vient pas de moi.
Oui, je sais.
C'est-à-dire que je portais cette histoire et mes proches me voyaient bien, j'en parlais souvent, j'étais mal avec cette histoire. Et Bernard Stora, avec qui je suis très proche depuis des années, qui a écrit avec moi et mes secrets aussi, m'a dit « tu dois exorciser ça, tu dois raconter et peut-être qu'on peut en faire une fiction à la télé ». Et finalement, on a fait ce livre ensemble. Moi, je ne suis pas écrivain, vous l'avez dit. Disons que je fais la toile et lui, il la tisse. Voilà.
Mais c'est parce que vous êtes Lynn Renaud, parce que la vie vous a amené cette histoire,
oui,
qu'elle est formidable parce qu'elle est vraie. Donc, dans votre loge, on vous amène une fan de 17 ans qui vous adore.
Oui.
Donc là, ça part comme plutôt une comédie positive.
Et oui, mais il y a surtout quelque chose, c'est que je suis très attachée aux fans. J'ai toujours, dès la première lettre reçue, celle-là, j'ai dû l'embrasser même quand vous recevez la première lettre de fan. Et j'ai toujours gardé, je leur réponds. Quand quelqu'un va très mal, il laisse son téléphone, j'appelle.
Vous faites des chèques?
J'en ai fait. Et puis voilà, j'ai ce contact avec eux, donc je suis pas prudente, mais je suis gâtée aussi. Depuis toutes ces années maintenant, ça fait 73 ans de carrière, je n'ai à raconter que cette histoire qui a été malheureuse. Tout le reste a été magnifique dans ma vie avec les fans, voilà.
Parce que si je peux me permettre, parce qu'on va peut-être pas révéler toute l'intrigue, Alex Visorek, parce qu'en plus ça tient comme il y a du suspense dans ce livre.
Oui.
Ça monte et on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer. Mais juste ça met en perspective quand même l'idée d'une artiste extrêmement aimée, extrêmement adulée. Est-ce qu'à un moment ça vous fait quoi en tant qu'artiste de vous savoir aimée au point d'être mise en danger? Est-ce qu'à un moment, vous avez dû vous interroger aussi sur cet entourage et cet amour que vous suscitez?
Oui, je n'ai jamais pensé à la mise en danger. Et même maintenant, je n'y pense pas. Je les rencontre, là, je viens de terminer Plein Feu. Et ça a toujours été ainsi. Je vais beaucoup, beaucoup m'attendre dehors au Casino de Paris, quelquefois. Il y avait 300 personnes dehors. Et je reste avec eux. Après,
chez nous, quand il y a 300 personnes dedans, c'est déjà pas mal.
Arrête-toi. Ça y est, je suis partie à rire, vous n'allez plus m'arrêter là. Et bon, je signe. Quand je finis Plein Feu, je signe pendant une heure et demie. Après, oui. C'est quand vous démarrez votre vie, vous voulez être connu. Si vous avez la chance d'être aimé, vous leur devez quelque chose en retour. C'est la moindre des choses de les aimer, de montrer qu'on apprécie leur amour.
Et cette histoire ne vous a du coup pas rendu méfiante?
Non. Les autres autour de moi, quelquefois.
Ah oui, parce que vous avez un endroit.
Des clins d'œil.
Non, parce que l'histoire, elle va loin. Clara a raison de pas.
Oui, parce qu'on ne sait pas pour l'instant.
Il ne faut pas savoir.
Oui, il ne faut pas savoir du tout.
Vous savez, il arrive ce genre d'histoire. Pourtant, je me croyais. C'est pour ça que je m'en voulais beaucoup. Je me croyais battante. Je suis d'une battante. Me croyais pas naïve. Je ne suis pas naïve. Et là, vraiment, j'étais d'une grande naïveté. Et c'est pour ça que je m'en voulais. J'avais besoin de raconter ce livre.
C'est ça. On a l'impression, quand vous dites non, je continuerai à être comme je suis. Est-ce que vous reprochez quelque chose dans cette histoire qui est une histoire de couple star-fan? Parce qu'elle dure une dizaine d'années, cette histoire, pour en dire plus à Guillaume.
Ouais.
Et sur la longueur, à un moment, elle finit par essayer d'abuser de vous. Et puis après, l'histoire, je la laisse découvrir. Mais est-ce que vous vous reprochez quelque chose dans la création de ce couple?
Je me reproche d'avoir été naïve. Parce que, aussi, il y a quelque chose que vous savez, j'ai toujours été en manque d'enfants. Et donc, de petits-enfants maintenant, bien entendu. Et donc, quand cette gamine arrive à 17 ans, que sa maman est avec elle et qu'elle me raconte que depuis que je ne sais pas quelle, elle a ses murs tapissés donc de photos, d'affiches, etc.
Elle a un classeur sous le bras, où
moi, quand je regarde ce classeur, bon, je dis elle a quelques photos comme ça, pas du tout, des photos d'archives que nous cherchons. Quand je faisais des émissions de télévision en Italie, je n'avais rien, je les trouve dans son dossier. Quand je faisais les émissions à la BBC en Angleterre, en 51, 56, je n'ai rien. Elle en avait.
Même des sextapes, je crois que...
Qu'est-ce que tu racontes?
Ne l'écoutez pas, Aline.
Je ne perds pas ma parole.
Non, ne l'écoutez pas.
Je ne veux pas t'entendre.
Ne l'écoutez pas. Oui, il y a un
d'ailleurs,
côté déjà...
chaque fois que je ne veux pas comprendre, de répondre, je dirige pas compris.
Il y a un côté mère spirituelle dès le départ, avec tous ces documents. On n'en dit pas plus, mais Clara Dupont-Monod va chroniquer votre livre, Line Renaud, votre livre qui s'appelle Une drôle d'histoire, écrit avec Bernard Stora, paru chez Robert Laffont, car nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour notre plus grand bonheur. Et je vous dirai, Line Renaud, dans la confidence, méfiez-vous d'Alex Vizorek.
Oh, mais c'est déjà fait.
Ah, parce qu'il est très fan, il a vu le livre.
Il a de beaux yeux en plus.
On est là pour vous protéger. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Oui, 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 oui.
Bah oui, c'est Nancy Sinatra.
Oh, pardon.
Tout à fait, oui.
Oh, Meline Renaud, vous inquiétez pas, on est à la bonne franquette ici. Nancy Sinatra, bang bang, et comme ça on a réveillé les auditeurs qui peut-être certains ont failli s'endormir au volant, malgré l'excellente programmation musicale de Djoubaka qui est avec nous.
Il aurait dû mettre Elvis.
Ah. On peut lui demander pour Line Renaud, on mettra Elvis la prochaine fois.
Non, mais on en
fois.
Parlait juste avant avec Line, parce que c'est la seule personne pour qui Elvis a chanté en France.
Oh la
c'est
classe.
C'est pas mal, mais c'est pas une blague. C'est pas une drôle d'histoire.
Non, non, là
c'est une belle histoire.
Car une drôle d'histoire, c'est le titre de votre livre, Line Renaud, paru chez Robert Laffont. Et Clara Dupont-Monod va en parler tout à l'heure. On en saura un petit peu plus parce qu'on a laissé planer le mystère. Et ensuite, Alex Vizorek pour entourer Line.
Il me semble qu'il n'y a plus que Guillaume Meurice qu'on n'a pas entendu après cette chanson de Nancy Sinatra.
C'est vrai.
Et l'actualité.
Bien sûr, c'est l'heure de l'actualité, Line Renaud. Ah oui. Je sais que vous aimez ça.
Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine.
Le journal de presque 17h17.
À moi, à l'assassin !
C'est l'élection présidentielle.
Et on commence par les titres.
Hier a eu lieu la fameuse remontada. Alors qu'ils avaient gagné 4-0 le match aller, les Parisiens se sont écroulés face au Barça au match retour en perdant 6-1.
Oui, un grand rassemblement de soutien aux joueurs du PSG aura lieu au Trocadéro ce dimanche.
La nouvelle équipe de campagne de François Fillon a été enfin dévoilée.
Ah, pour une fois qu'il ne cache pas quelque chose.
Est-ce qu'il y aura des brèves, Alex ?
Mais elle n'était pas partie gagnante contre vous, Charline, mais on assistera à une remontada de la brève.
Et commençons par ce fameux score 6-1.
Oui, qui n'est pas le score du premier set entre Nadal et Tsonga.
Non, c'est le scénario de ce match fou avec 3 buts dans les 7 dernières minutes.
Et oui, et ça a bien surpris de nombreux spécialistes. Alors, qui est la Rutel Krief de Canal+
oh,
Elle s'appelle Paul Le Guen et Stéphane Guy.
Attention, attention, ça va crier, non?
Non, parce que on est à la 80e minute. Ils sont persuadés à 3-1 que, bah, il n'y a plus aucune chance, quoi.
Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable.
Et oui, mais sauf que à l'assurance française, j'ai envie d'ajouter l'arrogance française.
Ah, ils ont eu des émotions quand même, les supporters barcelonais ce soir. Ils ont pu y croire l'espace d'une heure. Et en face, c'est Paris Rhône. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Et ouais. Je suis marqué le but qu'il fallait.
Et c'est le Paris Saint-Germain, mon petit bonhomme, hein, qui a su en prendre 3 en 7 minutes. C'est Paris Rhône, c'est pas Valladolid. Beaucoup de tristesse.
Beaucoup de tristesse jusqu'à Mont-de-Marsan, oui. Où un élu avait écrit sur son mur Facebook le soir de la victoire 4-0 ceci.
Il a écrit 7 fois, si le Barça passe, je mange un rat ou je vote Mélenchon.
Mon Dieu.
Et France Bleu Gascogne l'a donc rappelé aujourd'hui.
Attendez, il y avait absolument aucune chance que j'ai à devoir subir ce pari. Et en réalité, hier soir, je crois que la chance a tourné, donc je vais devoir me mettre à exécution. Je vous demande simplement un peu d'indulgence. Mélenchon, je peux vraiment pas. Hein. Je me concentre sur l'orage, je me suis engagé. Je vais pas pouvoir me débiner. Donc j'espère que mes copains qui m'ont envoyé des dizaines et des dizaines de mails se chargeront de me trouver un spécimen de rat en bonne santé, plutôt un rat des champs qu'un rat des villes.
Plutôt un rat des champs. Enfin, en tout cas, un politique qui tient ses promesses, c'est déjà ça.
Notons également qu'après le match, Gérard Piqué, un joueur de Barcelone euphorique a déclaré, dit aux hôpitaux de recruter des infirmières pour dans 9 mois, car ce soir, les gens vont beaucoup faire l'amour.
Mais oui, les gens vont beaucoup faire l'amour, et pourtant, c'est le PSG qui s'est fait baiser.
C'est élégant, c'est élégant. Politique,
c'est de moi.
Dans sa nouvelle équipe de campagne, François Fillon a confié à François Baroin la mission du rassemblement politique.
Et on lui souhaite énormément de courage à François Baroin, parce qu'à mon avis, c'est plus simple d'être responsable de la réhabilitation du centre-ville d'Alep.
Présidentiel toujours, Nolan, le jeune homme qui avait giflé Manuel Valls, a annoncé sa candidature.
Eh oui, après Benoît Hamon, ce sera donc le deuxième candidat à avoir mis une belle claque à Valls, qui va tenter sa chance.
Julien Drey a déclaré, un député a besoin de 9000 euros net par mois.
Je sais pas pourquoi ça fait polémique, c'est à peine plus qu'une assistante parlementaire, donc il n'y a rien de choquant là-dedans.
Judiciaire, à présent, hier, le parquet de Paris a demandé le renvoi en correctionnel de Bernard Tapie pour escroquerie en bande organisée.
Ça sent la candidature à la présidentielle de Bernard Tapie.
Et François Hollande a-t-il vraiment renoncé? Selon Le Parisien, le président aurait rassemblé 500 parrainages juste au cas où.
Bah, il a regardé Barcelone hier soir, hein. Il est pas fou le gars.
Robert Ménard, qui comparaissait hier au tribunal pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, a déclaré à la barre, j'ai passé ma vie à combattre le racisme.
Les gens de Béziers, vous ne m'étiez pas rendu compte, vous avez voté Martin Luther King. Chapeau.
Télévision hier, CNews, à l'occasion de la journée des droits des femmes, eh bien, qui ont-ils invité?
Eugénie Bastier et Elisabeth Lévy. C'est ce qu'on appelle de la contre-programmation.
Une petite brève?
Oui, Australie. Le pédophile prétendait être Justin Bieber.
Ah, ça c'est idiot ça.
Bah oui, s'il avait été zoophile, il se serait fait passer pour un Tintin.
Lynn Renault est avec nous. On a la chance qu'elle reste avec nous, Lynn Renault.
Je suis presque partie.
Ne faites pas ça. Restez. Ce serait tellement malheureux.
Je reste à cause de votre rubrique.
Bah, merci pour les autres.
Bien fait. Lynn Renault attend la chronique de Clara Dupont-Monod sur son ouvrage Une drôle d'histoire. On va aborder ce premier sujet avec vous, Lynn, parce que vous savez, on aime rire de la politique, on aime rire de tout. Pour gagner ces galons de tribun politique, il faut avoir quelques lettres. Un discours ne tient pas la route sans citer un ou plusieurs auteurs afin d'étayer ses théories ou en voulant étaler sa culture.
Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka? Oh là 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 là.
Suzanne Gabriello, j'ai fait une petite recherche, j'ai appris que c'était la compagne de Jacques Brel à un moment, et c'est pour elle qu'il aurait écrit « Ne me quitte pas », sauf que c'est lui qui l'a quitté.
Mais
comme ça on est raconté, c'est une émission un peu culturelle aussi, hein, politique, culture. Justement, c'est un article à lire dans l'Express intitulé « Comme l'a si bien dit machin chose » sur la façon dont les politiques usent des citations de grands auteurs dans leurs discours. Je me disais, Lynn Renault, quand par exemple Marine Le Pen cite Victor Hugo ou que Sarkozy cite Jaurès, est-ce que ça les crédibilise à vos yeux?
ou parfois ça peut être paraître ridicule un peu.
Non, je ne sais pas s'ils sont. Je les connais pas suffisamment, par exemple ceux qui se présentent au présidentiel actuellement, mais ils sont peut-être cultivés et quand ils faisaient leurs études, ils ont été peut-être imprégnés par une citation et ils éprouvent. Ils pensent que par cette citation, ça sera mieux que par eux-mêmes. Donc ils emploient la citation qui les a imprégné étudiant.
Après, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, Lynn Renaud, mais il y a parfois l'idée qu'on a l'impression que c'est pas des phrases souvent qui vont très loin. Quand par exemple il cite Camus, alors c'est Benoît Hamon qui avait cité Albert Camus, il dit « Faites comme Camus, voyez, regardez, désirez l'été qui vient ». Enfin, Michel Drucker, il peut dire pareil. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais c'est ou alors il cite non mais c'est très plat en fait. Il cite Gandhi.
C'est quand Camus était présentateur météo.
Voilà, c'est ça. Mais il a cité aussi Gandhi. Mais c'est une phrase qui est réversible pour tout le monde. Mm-hmm. Marine Le Pen aurait pu la dire. Gandhi, c'est soyons le changement que nous voulons pour le monde. Vous imaginez l'inverse ? Ne soyons pas le changement que nous voulons pour le monde. Vous voyez, ça n'a aucun. C'est évident quoi.
Comment vous clashez Gandhi, Clara Dupont-Renaud ?
Je clash le clash Gandhi Dupont-Renaud.
J'aime beaucoup. Quand. Là, ça y est, mon voisin de gauche va me taper dans ma jambe avec sa jambe.
Non, je le retiens, Aline, je le retiens.
Retenez, bon,
c'est Guillaume. Qu'est-ce qu'il va dire ?
J'aime beaucoup quand Macron cite De Gaulle. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est la gaulliste que j'étais, que je suis, que je reste. J'apprécie beaucoup.
Mais ils citent tous De Gaulle. Tous.
Oui, il faut. C'est vrai que Lynn Renaud a raison. Macron fait partie des plus fins lettrés parmi les candidats à la présidentielle, quand même. Mais par ses études.
Parce qu'il a une vraie culture, Macron.
Et parce qu'il a une prof de français dans son lit.
Oui. Ah, bravo. Oh, l'élégance en marche. Il y avait En Marche, il y a l'élégance en marche. C'est vrai. Alors, il y a aussi Mélenchon qui est peut-être le plus cultivé d'entre eux. Vous trouvez qu'il y en a un en particulier qui...
Je trouve Emmanuel Macron. Je ne le trouve pas, je sais.
Vous avez des infos.
Il était à votre anniversaire.
Non, c'est une surprise. Était à mon anniversaire organisé par Johnny.
Ah oui.
Et chez Johnny. Et donc, je ne savais pas qui j'allais trouver. Il y avait Muriel.
Muriel Jobin.
Il y avait Camus, mais pas...
Pas Robert, Jean-Claude.
Il y avait Jean-Claude.
Oui, le producteur.
Et qui n'a dit aucune citation. et puis, il y avait... Et d'un seul coup, c'est... Il y a Brigitte et...
Qui sort du gâteau.
Non, ils étaient là avant le gâteau.
Oh, l'angoisse.
Et là, vraiment, j'écoute. J'ai trouvé un couple. Je suis fan.
Vous êtes sous le charme.
Je suis fan de Macron, oui.
Alors, on apprend, par exemple, dans cet
article...
C'est
là où j'ai dit, je vais prendre un coup de pied de sa jambe.
Je me retiens.
On est tolérant, bien sûr. Bon. Et on apprend dans cet article que Benoît Hamon pioche dans ses carnets où, depuis des années, il classe les citations par rubrique. Donc, c'est travaillé, Clara Dupont-Monod.
Il les a choisis.
L'article de l'Express nous apprend que souvent ils exploitent la citation complètement hors contexte.
Oui, c'est ça.
Et l'instrumentalisent. Et c'est ça qui est amusant, c'est que eux, souvent, les politiques disent qu'on a sorti leurs propos du contexte. Donc là, c'est l'arroseur arrosé, mais là, c'est Hugo ou De Gaulle, effectivement. Lynn Renaud, à côté de vous, il y a notre programmateur musical qui s'appelle Djoubaka. Il est baraqué, il est tatoué, il a une belle casquette, il a une voix de crooner.
Oui.
Allez-y, Djoubaka.
Et qu'est-ce qu'il nous a programmé ?
Non, je vais vous parler des animaux et de la musique, parce qu'il y a quelques jours, je vous explique pourquoi. Il y a quelques jours, je reçois très officiellement en fait une demande afin de créer une bande son pour animaux de compagnie. Donc l'idée, c'est quand même de réaliser un film musical de plusieurs heures afin de tenir compagnie aux animaux de réconfort qui s'ennuient parce que justement, ils n'ont pas de compagnie. Donc c'est la logique même, dubitatif.
C'est marrant qu'on fasse appel à vous.
Bah exactement. Alors comme j'ai pas les bras en pâté de foie, je creuse le sujet et je m'aperçois très très vite qu'il y a aux USA deux gus qui savent que la vie sait prendre des risques. En effet, depuis plus de 10 ans, un scientifique qui s'appelle Charles Snowden et un musicien qui s'appelle David Tai étudient sous toutes les coutures les rapports et la sensibilité de l'animal et de la musique. Alors ils ont commencé quand même leur expérience avec des singes tamarins. Le résultat est un peu flou. Les singes préfèrent écouter de la musique douce que du hardcore ou des solos de violon. Bah tiens, plutôt que se faire hurler dans les oreilles, le singe préfère le calme. Là franchement, c'est pas une grosse surprise. Il n'y a pas besoin d'être singe pour préférer le silence à un déluge de décibels que surtout on n'a pas choisi. Et puis un singe en animal de compagnie avec qui on écoute de la musique sur son canapé, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est pas comme ça que je vais pouvoir construire mon film musical. Je creuse, et les deux chercheurs aussi. Fini les singes, pas passons aux chiens et surtout aux chats. Et là, ils ont une idée de génie. Ils ont étudié les vocalisations naturelles des chats. Ils leur ont fait correspondre leur musique à la même fréquence, qui est un octave un peu plus haut que la voix humaine. Et ensuite, malin les gars, ils ont incorporé des tempos comme celui d'un ronronnement ou le tempo de lapement de lait. 47 chats, hein, ont passé le test. Et écoutez la badade de Rusty. C'est une pièce musicale évoquant le sucotement du chaton têtant sa mère sur fond de musique relaxante humaine.
C'est les gens qui ont du temps libre. Hein,
oui,
même.
Complètement. Ouais. Résultat, le chat est calme et il est aux petits oignons. On écoute un extrait.
Il est où le lapement là?
Non mais on n'a pas demandé non plus à que ce soit des génies. Hein.
Vous avez déjà programmé des choses plus désagréables que ça?
Pas du tout, jamais. Pour les chats, jamais. Alors bon, en France, on a reconnu la sensibilité des animaux, mais on n'a pas encore reconnu le droit de dire non. Hein. Quelles que soient les expériences musicales, celui que le chat préfère, franchement, c'est le calme, roupillé, tranquille. Il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fasse un disque. Hein. Le premier d'entre nous qui envoie un chez le disquaire du coin me prévient illico, je lui paye des croquettes. Mais bon, imaginons que la musique devienne non pas un relaxant, et là Guillaume, vous allez vous éclater, et ou un outil qui permet aux autres animaux d'aller tranquillement user le soleil avec deux enceintes au bout des pattes, ça existe, je l'ai vu, mais que cela puisse devenir dans des mains et des cerveaux très pervers un outil du capitalisme. Une pompe à fric, comme par exemple la musique d'élevage, où l'on multiplierait le rendement par deux ou par trois. Et en Allemagne, il y a un laboratoire d'essais agricoles de la ville de Cederberg qui a vu une nette attention des bovins et un calme olympien dans l'étable quand on a diffusé la petite musique de nuit de Mozart. En Angleterre, ils ont fait le même truc. Là, c'est le Music Research Group de l'université de Leicester qui a établi qu'une vache écoutant la symphonie pastorale de Beethoven, produisait plus de lait que si on lui passait les Beatles. Donc, ça va faire du boulot pour les droits d'auteur. On imagine l'inspecteur de la SACEM, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ouais, oui, en train de compter le nombre de vaches dans les tables et de fixer le montant de sa facture. Et donc, le fil de musical pour Bestiaux, je ne le fais pas. Mais je vais vous faire découvrir ce qui pourrait se passer si les animaux se mettaient au diapason et produisaient de la musique. Dans ce qui va suivre, aucun animal n'a été maltraité. L'animal est bien vu. L'ingénieur du son Roy Nicholson et le producteur Gene Pearson des Beatle Bakers n'ont pas tiré sur la queue du chat pour qu'il chante. Ils n'ont pas fait peur au canard, ni essayé d'éborgner un chien pour qu'il gale au rythme. Ils ont juste donné les clés du studio à leurs potes, à poil et à pattes.
Renaud a dit, mon chien dans la vitrine, il faisait pas ça.
Non, on a tout essayé avec Loulou. Il fallait qu'il y ait deux genres d'aboiement dans le chien dans la vitrine. Un normal. Et alors donc on avait essayé avec un morceau de sucre devant parce qu'il aboyait quand il voyait du sucre. Et puis quand après un moment méchant. Et il détestait quand j'embrassais Loulou, ce chien faisait, oh, il devenait méchant. Donc on était complètement comme deux idiots avec l'ingénieur du son qui nous enregistrait. Il a jamais réussi à le faire en rythme. Donc on a demandé à Roger Carrel.
Ah bon ?
Ça casse le mythe.
C'était The Beatle Breakers, We Can Work It Out. C'est la découverte musicale de Chewbacca.
Moi j'aime bien quoi.
Vous avez vu sur YouTube les chiens qui chantent I Love You ?
Ah, j'ai pas vu ça.
Ouais,
ah,
pas et l'autre qui danse la salsa, mais c'est incroyable.
Vous regardez des vidéos de chiens sur YouTube, vous ?
Oui.
Lynn Renaud est avec nous et elle publie Une drôle d'histoire chez Robert Laffont avec Bernard Stora. Et cette drôle d'histoire, Clara Dupont-Monod va nous en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, il faut en passer par votre ami gauchiste, Lynn, votre nouvel ami.
Ça y est, je suis dénoncé.
Guillaume Meurice.
Je vais lui prendre la main pendant qu'il pense.
Voilà, justement, parce que j'étais au Théâtre Antoine hier soir, Lynn, vous avez joué là-bas ?
Oui.
Oui, vous avez joué Harold et Maude, l'histoire de la rencontre d'un jeune homme et d'une dame d'un certain âge.
Oh, je vous vois
oh,
venir.
Oh, elle me voit venir. Et ben, il y avait le remake hier soir avec Emmanuel Macron et Bribri dans les rôles principaux. Un meeting d'Emmanuel Macron où je me suis rendu. Hein, beaucoup de monde d'ailleurs, plus de 900 000 personnes hein, sur l'échelle de Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. On l'a tellement attendu, on était excités comme Valérie Pécresse au Salon de la Trahison. Mais maintenant, voilà, on le connaît ce programme. Alors on va commencer simple. Qu'est-ce qui plaît à ce supporter d'Emmanuel Macron ?
Je trouve que l'homme se présente avec des idées neuves. Et,
alors quelle idée neuve il a, par exemple ?
Par exemple, sur la politique, d'être ni de droite ni de gauche.
Jean Le Canuet, il disait
oui,
ça.
Oui. Non, mais il y a une ressemblance.
Oui, c'est pas très neuf, alors, du coup, ça.
Il y a surtout une ressemblance, par exemple, avec Giscard d'Estaing.
Ah oui, alors oui, à Giscard, Le Canuet, oui, là, d'accord. Là, on parle de modernité. Hein, manque plus que René Coty. Et puis là, mon petit pote, je vais te dire, ça va être une autre limonade. Louison Bobet dans le comité de soutien et en avant casquette, hein, moi, je te dis. N'hésitez pas à rejoindre donc le mouvement en envoyant un télégramme en marche vers le passé. Alors, là, on parle de son équipe, mais ce monsieur m'a bien parlé des idées neuves. Alors, continuons avec lui.
Surtout la régionalisation, déjà la décentralisation.
Ça c'est pas neuf, c'est Jean-Pierre Raffarin.
Bah oui, mais je dis pas qu'il a une mauvaise idée neuve. Mais
ah voilà. Ah oui, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il avait des idées.
Oui, peut-être que je me suis exprimé.
Oui, parce qu'on voyait pas bien. Hein. On voit bien que le gars, il est neuf. Macron, il est neuf. Hein, on voit bien que c'est la lessive nouvelle formule. Mais bon, à part qu'on va la payer plus cher, on voit pas le changement. Par exemple, idée pas neuve que Manu a développée. En cas de refus d'une deuxième offre à Pôle emploi, fin des indemnités chômage. Hein. Dominique Seux, il a entendu ça. Il a repris deux fois des truffes à la cantine des Échos ce midi. Qu'en pense cet autre militant présent hier soir ?
Je crois qu'il avait dit, c'est pas la première fois qu'on dit ça, une offre valable, où les gens soient payés correct. Oui, non, mais...
Ouais, mais sur le refus alors de la
non,
deuxième
offre. Oui, non, ça, ouais, c'est pas... oui, non.
Ouais, on vous sent pas...
Il y a peut-être... Non, bien sûr, c'est un peu... Bon, c'est une mesure parmi d'autres, mais c'est vrai que il faut... d'ailleurs, ce qui est...
c'est pas simple, hein, c'est pas simple de justifier une bonne vieille mesure anti-pauvre dégueulasse. Alors, ne vous inquiétez pas, Macron a reçu le soutien d'Alain Minc et d'Alain Madelin. Hein, ils vont faire des séances de coaching. À vous le free fight chez Emmaüs, même s'ils se défendent d'être de droite. Attention, hein, poursuivons.
Lui dit est de droite et de gauche.
Et alors, où est-ce qu'il est de gauche, Emmanuel Macron ?
Bérou, c'était plutôt centre-gauche. Et puis non, mais là, ça va se sentir, puisqu'il va y avoir des ralliements. Il va y avoir des ralliements socialistes.
Dans son programme.
Vous êtes dur avec moi là.
J'avoue, c'est une question à la con, hein, je sais. Hein. C'est comme si on demandait à Chewbacca sa chanson préférée d'Hélène Segarra. Chewbacca ?
Il n'y en a pas.
Voilà. C'est des questions qui ne sont pas évidentes, ça je le sais. Mais en même temps, autant vous le dire franchement, le programme, les supporters de Macron, ils s'en foutent complètement.
Faut pas dire aussi que tout se trouve pas forcément dans le programme tout de suite. Je pense qu'on est trop focalisé sur on veut le programme. Je pense que c'est pareil, il faut promettre en disant aussi on va inventer pendant qu'on sera au pouvoir.
Ouais, parce que pour voter, il faut quand même bien qu'on sache le programme.
Eh ben, pas tout, non. Je crois pas parce que
ah bon
il faut lui faire aussi confiance sans avoir tout pu vous mettre dans le programme.
Alors, ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau pour le coup. Faire confiance au type sans savoir ce qu'il veut faire. Hein, d'habitude, on se fait niquer par les promesses, mais là, on vote pour le type et puis après, ben voilà, ça sera la surprise. Emmanuel Bonux Macron, hein, quand je vous disais qu'il y avait un lien avec la lessive. Et puisqu'on parle de déception, j'ai croisé hier soir un militant que je commence à bien connaître, puisque c'était un des plus fervents supporters de Manuel Valls à la primaire. Ah. Et oui, il était là, donc j'ai déjà eu l'occasion de l'interroger. Il s'appelle Pierre. Et Pierre, il était là pourquoi ?
Parce que je suis toujours au Parti Socialiste et j'avais mon candidat, c'était Manuel Valls, que je soutiens encore.
C'est fini là, c'est fini Pierre.
Non, c'est pas fini.
Pierre, c'est fini.
Mais non, c'est pas fini.
Putain, Pierrot. Pierrot, on dirait un supporter du PSG. Encore sous le choc d'hier soir. Bon, alors, ceci dit, c'est fini pour Valls, mais bon, les néolibéraux qui se font passer pour des progressistes, c'est malheureusement loin d'être terminé.
Merci, Guillaume Meurice.
J'ai mon mot à dire.
Allez-y, Guillaume.
Droit de réponse du soutien
j'ai
d'Emmanuel Macron.
J'ai mon mot
Macron
à dire, je ne peux pas laisser passer ça quand même. Pour moi, je soutiens Emmanuel Macron. L'histoire de la différence d'âge entre mon mari et moi, on dirait que c'était dans l'autre sens. Il y avait 21 ans de différence et nous avons été un couple pendant 50 ans.
Voilà, écoutez bien
comme
ça les garçons.
Tous les couples de longue durée, il y a eu des nuages, des gros nuages, et le couple, on a comment donné des chances à notre couple et nous avons quand même vécu 50 ans ensemble et 50 ans dans le bonheur est quelque chose de très cimenté. Le couple Emmanuel Macron-Brigitte n'est pas vraiment. Ils sont très amoureux et je les aime beaucoup tous les deux.
Donc là, c'était une vraie réponse sur le fond.
Oui,
quoi,
et alors je vais vous dire. Alors attends, je vais te parler. Pour moi, je pense là actuellement que avec lui, on a l'espoir de retrouver l'union. Enfin, faut se rassembler.
L'union des banquiers.
L'union des Français.
Ah, des Français, pardon.
Avec quoi, de qui tu prends
pas, je pensais que c'est que les banquiers, moi.
Non, l'union des banquiers. Attends,
mettez-lui des coups de pied sous la table.
Non, c'est moi qui vais.
Ben voilà.
Ça y est, moi, c'est fait. Coup de pied sous la table à ma gauche.
Contre le Front National, c'est ça que voulait dire Line Renaud aussi.
Mais oui, moi, voilà. Je veux dire qu'une phrase.
Voton peste contre le choléra.
De Gaulle a dit, la France ne peut être la France que sa grandeur, que si elle a sa grandeur. Et je pense que c'est important, par le rassemblement, de retrouver la grandeur de la France.
On peut se rassembler autour de Poutou, par exemple.
Line Renaud, présidente. Ah, je vous tiens, Guillaume Meurice, baïonnez-le.
Surtout, il faut être fou pour partir dans la politique.
On va aborder rapidement ce deuxième sujet, Line Renaud. En France, il est possible de décrocher un contrat de travail dès l'âge de 3 mois. Et oui, ils sont 10 000 enfants à travailler chaque année dans le spectacle sous une législation très stricte, plus stricte qu'en Belgique par exemple, où les cinéastes français vont tourner des scènes avec des nourrissons. D'ailleurs, en Belgique, Vanessa Paradis et Elsa ont débuté leur carrière assez tard, hein, comparativement.
Aujourd'hui, les talents sont de plus en plus précoces. Et après Elsa, Vanessa Paradis et bien sûr Jordi, ne ratez surtout pas actuellement au Zénith les débuts prometteurs de Féfé le Fœtus.
Un sketch des inconnus. Alors voilà, c'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France sur ces 10 000 enfants qui travaillent avec une législation assez stricte. Vous, Line Renaud, dans votre carrière, au cinéma, au théâtre, dans la chanson, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des enfants ?
Bien là, dans Plein Feu. On vient juste de terminer Plein Feu avec un enfant qui était magnifique, Yanis Richard. Il nous fallait, dans l'histoire, un enfant de 13 ans. Mm-hmm. Donc, si vous prenez l'enfant de 13 ans, il faut que nous en ayons deux. Deux ou trois.
Parce qu'ils ne peuvent pas travailler trop longtemps.
Alors, Ladislas Chollat, le metteur en scène, a passé un casting, beaucoup, très long. Et il a trouvé un gosse de 16 ans qui faisait vraiment 13 ans. Alors sinon, il faut... Je ne sais pas comment ils font pour les choristes, par exemple.
Jean-Luc Lahaye a eu le même problème.
Qui ?
Jean-Luc Lahaye. Attends,
ne l'écoutez pas, Line Renaud, ne l'écoutez pas. Et vous-même,
Line Renaud ? Je ne viendrai plus.
Oh, ben voilà, bien joué.
Bravo.
Line Renaud, vous, quand vous avez commencé votre carrière en chantant, etc.
Il n'y avait pas cette loi.
Non, il n'y avait pas cette loi, bien sûr, mais vous avez commencé très jeune. Est-ce que vous avez vos premiers cachets, c'était avant 18 ans ?
Oui, à 15 ans.
Ah, voilà.
À 15 ans. Mais je ne savais pas que c'était un métier. Quand j'écoutais les chanteurs à la radio, parce qu'il y avait à la télévision à l'époque, moi je croyais qu'ils faisaient ça pour leur plaisir. J'ai réalisé que c'était un métier.
Que c'était pour l'argent, en fait.
Coup de pied sous la table. Voilà, c'est un article dans lequel on apprend qu'en France, c'est à partir de 3 mois que les enfants peuvent travailler. Et donc, il y a un cinéaste qui est allé en Belgique parce qu'il avait besoin d'un nourrisson. Parce que quand vous voyez une scène de cinéma avec un bébé qui vient de naître et qu'en fait, il a 3 mois, ça se voit quand même.
Je vais vous poser une question. Allez-y. Comment font-ils dans les publicités ? Les publicités, là, tous les jours, il y a tellement de nourrissons.
Eh bien, ils en prennent beaucoup. Par exemple, dans le film, alors j'ai oublié le nom, je vais essayer de vous le rechercher. Ils ont utilisé 20 nourrissons. C'est un film avec Louise Bourgoin. Je vais vous retrouver ça, où il y a 20 nourrissons qui se sont succédés pour pouvoir tourner les scènes en Belgique.
Et manger.
Un heureux événement de Rémy Besançon. Voilà. Ah. Il est 17h47 à Nieppe. Et à Armentières.
Il n'y a plus de décalage horaire avec Nieppe.
Non, non.
Mais c'est depuis quand?
Bah écoutez, depuis que le TGV passe comme ça d'un coup, c'est comme avec Bruxelles, 17h47 à Bruxelles aussi. Et c'est la chronique qu'on attend tous, celle de Clara Dupont-Mono sur votre livre, Line Renaud.
Et oui, c'est notre actualité aujourd'hui parce que c'est votre donc livre, Line Renaud, qui s'appelle Une drôle d'histoire, écrit avec Bernard Stora. Alors pour nos auditeurs, je le précise, vous écrivez à la première personne, c'est autobiographique et vous racontez comment est-ce qu'une jeune fan, bien sous tout rapport, s'est révélée mythomane et dangereuse. Et vous racontez aussi comment vous n'avez rien vu venir. Autrement dit, c'est un livre qui décortique aussi bien la supercherie que la crédulité. Alors commençons par la supercherie. Elle est parfaite. La supercherie en question, elle s'appelle Jennifer, elle a 17 ans, elle est sérieuse, elle est sage, elle a une poignée de main assez franche et elle porte un petit chemisier à col rond. Personne au monde ne se méfie d'une jeune fille avec un chemisier à col rond. Et c'est un tort car c'est le premier principe du menteur ou de la menteuse qui consiste à s'arranger toujours pour inspirer confiance à la victime. Dans un livre qui s'appelle « D'après une histoire vraie » de Delphine de Vigan, je ne sais pas si vous l'avez lu, Line Renaud, vous le lirez, ça raconte aussi une intrusion. Et comme par hasard, une des scènes primitives, c'est le personnage de Elle, qui est l'intruse. Oui. Et elle va déployer les trésors de séduction pour cerner la narratrice qui, du coup, lui ouvre sa vie. Et ça, c'est un des principes du menteur, c'est que le voleur de vie ne force jamais les portes de sa victime. Il se débrouille pour en obtenir les clés. Et donc, ça passe, entre guillemets, comme une lettre à la poste. C'est le deuxième principe, d'ailleurs, du menteur ou de la menteuse, c'est qu'ils le font avec d'autant plus de naturel qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de mentir.
C'est ça.
Voilà. Alors, c'est un des grands principes du mythomane qui, finalement, s'abuse autant lui-même que son entourage. Ça aussi, ça fait un point commun, vous noterez, avec les écrivains.
Mais avec des détails, donc voilà. Des détails tellement incroyables qu'on ne peut même pas imaginer que c'est une vie inventée.
Alors, comme tous les affabulateurs, quand même, il y a des points communs aussi avec les écrivains, c'est pour ça que votre histoire, elle est intéressante. Mais en tout cas, ça explique qu'il ait pu se produire dans nos sociétés des faits divers absolument incroyables, comme par exemple celui de Jean-Claude Roman. C'est à lui que je pensais quand j'ai lu votre livre. C'est un homme qui a menti pendant 18 ans à sa famille et à son entourage en se faisant passer pour un médecin. Or, il avait échoué aux examens de médecine et il a fini par trucider tout le monde. L'écrivain Emmanuel Carrère lui a consacré un livre qui s'appelle L'Adversaire. Ensuite, il y a eu un film de Nicole Garcia. Et dans le livre L'Adversaire de Carrère, que du coup j'ai repris, il montre comment est-ce que Jean-Claude Roman se coule dans son personnage, qu'il a pas tellement l'impression de mentir, en fait, c'est très étrange. Mais comment est-ce qu'il est capable d'apprendre par cœur des polycopiés pour tenir une discussion avec un vrai médecin, en l'occurrence c'est un cardiologue, il y a une scène d'un dîner avec un cardiologue où il mène la discussion et le cardiologue en partant dit quelque chose comme « Oh là là, à côté de lui, on se sent tout petit ». Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des trésors d'ingéniosité et de naturel qui font que ça enquiste le mensonge et ça installe le personnage. Autre condition pour que la magie noire opère, je vous cite, vous dites « Le mythomane crée un personnage autour duquel s'élabore un roman ». On y revient encore. À partir de cet instant, ce n'est plus l'imaginaire qui s'adapte à la vie, Mais la vie, qui par une succession inouïe de hasards, de coïncidences ou de quiproquos, s'adapte à l'imaginaire. Et c'est vrai. Et c'est ce qui se passe quand la banquière de Jenny, la fabulatrice, que votre notaire essaie d'appeler, eh bien cette banquière, elle est vraiment pas là en ce moment. Voilà. C'est ce qui se passe aussi quand vous n'insistez pas pour que votre notaire renouvelle son appel ou alors s'adresse à quelqu'un d'autre dans la banque. C'est ce qui s'est passé aussi pour Jean-Claude Roman, le médecin, quand personne n'a eu l'idée de vérifier qu'il y avait bien son nom sur les listes d'admission en médecine, alors que ça aurait été tout simple. Mais on ne le fait pas. Et là, oui, on peut le dire, le réel semble s'adapter au mensonge, il est même vaincu par lui. Alors, je l'ai dit au début, tout ceci n'est possible que si la proie est crédule. Et là, Lynn Renaud, vous avez l'honnêteté de vous demander, mais comment ça se fait que je n'ai rien vu? Et en fait, si, en fait, vous avez vu.
Quelquefois, je demandais si elle était mythomane. Mais mes proches, sont pas de crédules non plus. Cette petite est un cadeau du ciel.
Et alors, du coup, vous avez évacué l'idée, mais après, vous le dites, en fait, j'ai vu. Il y avait des tas de cailloux blancs partout. Mais par contre, je n'avais pas envie de savoir, ce qui n'est pas pareil. Et vous expliquez dans votre livre qu'à ce moment-là de votre vie, vous étiez plus fragile.
C'est ça.
Physiquement, d'abord, oui. Psychologiquement ensuite, donc ça vous rendait évidemment plus vulnérable. Et ensuite, c'est là où on se rend compte que la mécanique de l'encerclement repose sur des ressorts inconscients dont on n'a pas définition, qu'on ne mesure pas sur le coup. Mais Jenny, quand on y réfléchit, au fond, c'est cette jeune fille que vous n'avez jamais été. Vous disiez tout à l'heure, c'est la fille que je n'ai jamais eue, d'accord, mais c'est aussi la jeune fille que vous n'avez jamais été. Parce que si on résume, elle est sage, vous étiez surnommée la commandante, oui, quand vous étiez petite. Elle est riche, en tout cas elle le fait croire, mais vous ne venez pas d'un milieu riche, et vous le savez très bien.
Pauvre.
Elle a fait des études supérieures, et vous-même vous reconnaissez que vous êtes arrêté au brevet, et que du coup vous avez toujours eu une forme d'admiration pour ceux qui ont fait
exactement
des études. Et c'est vous, in fine, qui avez le mot de la fin, quand vous dites « En fait, nous voulions y croire, Jenny nous racontait une belle histoire ». Et en même temps, c'est absolument magnifique, parce que ce ressort que vous avouez sous-tend toute notre humanité. Parce que c'est quoi cette crédulité? C'est celle de l'enfant qui croit au conte, c'est celle des amoureux qui s'aveuglent, c'est celle du lecteur quand il lit un roman. Croire au mensonge, c'est aussi une forme de droit à l'illusion. Et ça, pour le coup, c'est humain au sens littéral du terme. Je vous redonne les références. Une drôle d'histoire de Lynn Renaud est parue chez Robert Laffont.
Merci. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Merci, c'est tout à fait ça.
Bah, tant mieux, mais c'est vous qui l'avez écrit. Hein. C'est pas
on la garde alors, Lynn, on la garde.
Je renouvelle mon contrat alors.
Et vous pouvez réécouter cette chronique sur franceinter.fr et donc et vous procurez le livre de Lynn Renaud que vous avez beaucoup aimé, vous m'avez dit, Clara Dupont-Mono, paru chez Robert Laffont. On va aborder rapidement ce troisième sujet avec vous parce qu'on a besoin de votre éclairage, Lynn Renaud, sur le football, bien sûr.
Oh, c'est là, vous avez trouvé une bonne cliente.
Et voilà. Et moi aussi, on sera deux. On va faire équipe, Lynn.
Trois.
Alors, le match Barça PSG d'hier en, c'est quoi, la Ligue des Champions?
Bien entendu.
C'est ça qui est déjà rentré dans l'histoire, paraît-il, pour son issue qui semblait impossible.
Mais moi, j'adore le basket, hein. Du coup, je pourrais peut-être...
oui, peut-être. Le ballon est juste orange, c'est ça. Le PSG menait 4-0 au match aller. Il s'est fait bouffer tout cru 6-1 hier avec 3 buts dans les 7 dernières minutes.
Incroyable.
Voici le meilleur commentaire du match sur le jeu du PSG hier.
On sait depuis longtemps que les chèvres sont des animaux très futés, notamment pour ce qui est de se sauver de l'enclos. Vous savez, c'est l'histoire de la chèvre de M. Seguin, c'est de la fiction, mais ça correspond bien à la réalité. D'ailleurs, on connaît des cas un peu anecdotiques, mais réels, de chèvres qui savent ouvrir elles-mêmes la porte de leur enclos, et même des cas de chèvres qui font rentrer leurs copains, mâles par exemple, et puis qui s'enferment derrière.
Voilà. Vu comme ça, le football, c'est simple. Donc, il y avait des chèvres d'un côté et des joueurs de l'autre.
Voilà.
C'est ça, Alex Vizorek.
En tout cas, 10 chèvres d'après la presse, parce que Cavani a sorti son épingle du jeu, mais les 10 autres y étaient pas. Et en fait, non, parce que vous dites...
Vous êtes dit ce matin, ça c'est pour Lynn Renaud.
Non, c'est parce que ça parle de foot, oui.
Et
oui.
C'est une ancienne hooligan, hein,
Lynn Renaud. Vous voulez en venir.
Non, je veux en venir à quelque chose qui parle à tout le monde.
Justement, droit au but.
Qui parle à tout le monde. Quand on est sûr de gagner. Quand on est sûr qu'il peut rien nous arriver, on a gagné 4-0, à la limite on mettrait l'équipe B, on pense même qu'on va gagner, et qu'on perd.
L'excès de confiance.
Voilà, psychologiquement, quand, je ne sais pas, on vous dit, ce livre, il va cartonner, tu vas en vendre 100 000, et puis ça n'arrive
ou
pas.
Ou au théâtre.
Ou au théâtre.
Est-ce que la confiance en soi, l'excès de confiance en soi au théâtre, ça arrive, ou le trac, c'est la barrière?
Je pense que le manque de confiance, la confiance Et le manque de confiance, c'est pas bon. Donc il faut trouver le juste milieu.
Elle est Macron, hein.
Mmh. Ah, oui. Non, non. Il dirait ça, Emmanuel. Je vous l'avais dit qu'il est intelligent.
Mais oui, ni trop de confiance, ni pas assez, pile au milieu.
Pile au milieu, mais oui, mais bien sûr. Parce que, écoutez, si vous avez trop de confiance, vous ne faites plus de progrès. Vous, c'est du narcissisme.
C'est vrai.
Et si vous n'avez pas assez de confiance, vous n'y allez pas.
Et voilà.
Donc il faut trouver juste.
Bien sûr.
S'appelle le trac qui régularise un petit peu ça.
Ah, ils n'avaient pas le trac.
Mais je vais vous parler du foot. J'ai une overdose de foot avec mon mari, on n'avait que ça, donc j'ai saturation à vie de foot. Mais un jour, on m'a demandé de donner le coup d'envoi dans les années 50. Vous n'étiez personne ici, était né.
Clara. Non. Non, je n'étais qu'une idée.
Donc, dans les années 50, on m'a demandé de donner le coup d'envoi d'un très grand match important entre Lille et Marseille. Et donc, c'était la première fois que je faisais face sur un terrain de foot avec tous les joueurs. Et je dois donner un coup de pied dans ce ballon. Et je donne le coup de pied. Le ballon est parti, mais ma chaussure aussi.
Est-ce qu'on peut terminer par un petit exercice si on a le temps? On devra peut-être l'interrompre, mais on verra. Est-ce qu'on peut vous donner un petit rôle, Lynn Renaud? En tout cas, qu'on...
On fait un sketch à la fin de chaque émission. C'est un sketch.
Attends, c'est porno ou pas?
Non, absolument pas.
Ah non, non, non. Il n'y a pas de piège.
Vous ne prenez pas au piège.
Il n'y a pas de piège.
Jamais. Vous êtes Martine Aubry. Donc je vous ai mis de l'accent ch'ti. Parce qu'on est chez Benoît Hamon et il veut rassembler. Je fais Cazeneuve. Charline fait Royal. Qu'est-ce qui se passe
moi,
en ce moment?
Moi, qu'est-ce que je fais?
Vous êtes Martine Aubry.
Martine Aubry.
Où est-elle écrit? Ah, c'est quand il est écrit Lynn Renaud.
C'est exactement ça. Alors, si je vous ai réuni ici, c'est pour voir si j'étais capable de réunir 5 personnes.
Mais on est 4.
Voilà, donc je suis capable de réunir que 4 personnes.
Bon, okay. Benoît, faisons le bilan.
Bon, alors, vous voulez encore du crément?
Non, pas le poisson. Le rassemblement, c'est maintenant?
Avec Mélenchon, comme un emploi FN au Parlement européen. C'est fictif, c'est ça?
Bon, je te parle du rassemblement du PS.
Oui, tu peux rajouter un G, c'est comme le PSG, quoi. La débandade.
Bon, et Martine Aubry, elle dit quoi?
Eh, Benoît, mon petite biloute. J'ai l'heure du rassemblement.
Merci Martine, mais t'as des conseils?
Alors je t'ai apporté du maroilles.
Non mais Martine, la dernière fois tu m'as déjà apporté de la chicorée.
Goûte donc avant d'en dire du mal.
Le maroilles et la chicorée mélangés?
C'est comme ça, puis c'est tout.
Sinon quoi?
Hein?
Oui, pardon, sinon quoi?
Sinon je soutiens Philippe Boutou.
Bon allez Benoît, fais un effort quoi.
Maroilles et chicorée, pardon, mais ça sent.
Oui,
hein.
Ça sent pas la rose. Hein.
Non, ça sent un petit peu la vomitude.
Oui, comme la rose du PS.
Oui, elle sent aussi la vomitude. Oui,
Ségolène.
Oui.
Quicha?
Ah pardon, Ségolène.
Oh, j'aime ça.
Elle parle vraiment comme ça, Martine Aubry?
Pour le sketch, oui.
D'accord. Revenons à Benoît.
Oui, et moi alors, je chante le chabichon ou quoi?
On est tous ensemble, Ségolène.
Où est-ce que vous en êtes là?
Hein? Quand vous étiez tous avec moi en 2007?
Tous ensemble. Ouais. Je vous le disais tout à l'heure. Ouais. Tous ensemble.
Martine, ça s'arrange pas, son accent.
Je reconnais que je suis pas aidé là.
Si seulement on avait le soutien de François Hollande.
Pour gagner, moi je suis pas convaincue.
Et Yannick Jadot, il est où?
Je l'avais invité, puis il m'a dit qu'il avait piscine.
Benoît, t'es chier du chat?
Ça va, je suis en bonne santé, moi ça va.
Tu m'inquiètes un peu.
Le rassemblement est pas prêt d'être en marche.
Hein. Non, surtout pas en marche, hein, non.
Ah, surtout en marche.
Lynn Renaud, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On a senti que vous étiez en marche. Et surtout, je rappelle, le titre de votre ouvrage, oui. Une drôle d'histoire avec Bernard Stora, paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Lynn Renaud, c'était un plaisir. Et voici le mot de la fin qu'on donne à Nicolas Sarkozy, fervent supporter du PSG.
C'est pas possible. J'en ai pas compris. Dis-moi, ce n'est pas vrai.